premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la Mésopotamie, alors que celle-ci est au cœur d'une grande exposition au musée du Louvre-Lens. Après un nouvel épisode de la Fabrique de la Guerre Froide préparé par Anaïs Quien et Françoise Camard, Victor Massel-Lépinet de la Fabrique de l'Histoire nous guidera dans l'exposition du Louvre-Lens. L'histoire commence en Mésopotamie en compagnie de sa commissaire d'exposition Ariane Thomas, conservateur en chef des collections mésopotamiennes au département des Antiquités Orientales du Musée du Louvre. Mais tout de suite, la Fabrique de la Guerre Froide qui nous raconte un des nombreux moments de tension entre États-Unis et URSS.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které se připravuje.
Товарищи делегаты, уважаемые гости. 27-й съезд КПСС.
La guerre de Corée se poursuit sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Tenerife.
In defense of our own security and of the entire Western Hemisphere.
And under the authority of the Supreme.
Dotyczyły one spraw bardzo ważnych.
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide. Si les États-Unis et l'Union soviétique négocient un rapprochement pour sortir des heures les plus chaudes de la guerre froide depuis la mort de Staline, cette détente politique reste fragile. Leur rivalité nucléaire perturbe une conférence au sommet organisée à Paris en mai 1960 sur le sort de Berlin.
Midi Actualité, une émission de Maurice Hutin et Paul-Louis Mignon.
Hier soir, après 11 heures de délibération, après 11 heures de discussion, après 11 heures de consultation, le département d'État à Washington a enfin publié un communiqué. Là, les termes de ce communiqué, je ne dirais pas qu'ils sont embarrassés, je ne dirais pas en argot qu'ils sont en berlificoté, je dirais qu'ils sont saisissants. Ils sont saisissants parce que les Américains reconnaissent effectivement qu'un avion U-2 a pu aller au-dessus de l'Union soviétique et a pu y aller probablement, dit le communiqué, en mission de renseignement. Et immédiatement après, le communiqué déraille sur une voie, je ne dirais pas une voie de garage, mais sur une voie d'explication, admettant que la guerre de l'espionnage a toujours existé, sous-entendant qu'elle existera encore, disant expressément, mon Dieu, que si les Russes ne cachaient pas tellement leurs secrets, on n'aurait pas besoin d'aller chez eux pour essayer de les découvrir au service de la liberté et de l'humanité, évidemment, puisqu'il s'agit de déceler les risques d'une attaque par surprise. Évidemment, c'est une reconnaissance, et quand on sait, nous l'avons dit hier, nous le répéterons toujours, que les services secrets se font une guerre secrète et que cela est connu, mais cela ne sert à rien de le reconnaître, il faut ne pas se laisser prendre, et mon Dieu, le communiqué l'indique alors bien plus nettement qu'entre les lignes, on s'est laissé prendre la main dans le sac.
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avait interrompu au printemps 1959 les vols. Eisenhower avait ordonné l'arrêt des survols de l'Union soviétique par les U-2 dans le cadre du rapprochement avec l'Union soviétique et pour ne pas mettre en danger le processus de rapprochement avec l'Union soviétique. Donc il avait donné l'ordre de tout arrêter.
Alexandre Riosbord.
Mais il va autoriser, à la demande, sous la pression de la CIA et du département de la Défense, il va autoriser deux vols fin avril, début mai 1960. Et c'est le second de ces deux vols qui va mener à l'incident de l'U-2. Donc l'avion est abattu par un missile soviétique. Il est abattu le 1er mai. Dans un premier temps, c'est le silence. Personne ne dit rien. Les soviétiques attendent. Et puis ils vont annoncer, ne voyant pas venir de réaction américaine, ils vont faire un communiqué officiel le 5 mai pour dire qu'ils ont abattu un avion espion. La réaction américaine le même jour, donc le 5 mai, la réponse américaine, le premier communiqué du département d'État, c'est de jouer la surprise. On comprend pas, pour une bonne et simple raison, c'est que les Américains pensent que les Soviétiques n'ont pas de preuves avec eux, ils n'ont pas l'U-2. Ils l'ont certainement abattu, mais ils n'ont pas de preuves, pour une bonne et simple raison, c'est que l'avion a un mécanisme d'autodestruction qui doit, s'il est abattu, le détruire. Quant au pilote, on pense qu'abattu à 70 000 pieds, il a aucune chance de survivre, et si malgré tout il devait survivre, il est équipé d'une pilule qui doit lui permettre de se suicider, de ne pas tomber aux mains des autorités soviétiques. Or, il se trouve que l'avion a été abattu, peut-être un peu plus bas, on ne sait pas exactement, il n'y a pas d'enquête qui ont conclu exactement là-dessus. En tout cas, ils ont des parties de l'appareil, ils ont une partie de son équipement, et puis surtout, ils ont récupéré le pilote, qui n'a pas eu la courtoisie de se suicider. Francis Gary Powers a été attrapé. Et donc, dans un premier temps, les Soviétiques ne le disent pas, hein, le 5 mai. Ils vont dire, on a abattu un avion espion. Et donc, les Américains vont jouer aux idiots, en quelque sorte. Le département d'État va faire une déclaration en expliquant que, effectivement, ils ont perdu un avion. C'était une déclaration conjointe avec la NASA, mais c'est un avion de recherche civil, qui visiblement, et le pilote lui-même étant évidemment civil, c'est un avion de recherche, il s'est perdu parce que visiblement il y a eu un problème avec le système d'oxygénation du pilote dans cet avion de recherche. Et donc, suite à cet incident, il a dû dévier de sa course et il a dû, par accident, rentrer dans l'espace soviétique. Et donc, il a été abattu, mais ça n'a rien à voir avec une mission militaire. Il s'agit d'une mission de recherche qui décollait depuis la Turquie. Et donc, le département d'État est bien embêté, mais il ne s'agit pas d'un vol d'un avion espion. Alors les Soviétiques vont attendre 48 heures, et puis le 7 mai, ils vont faire un deuxième communiqué dans lequel ils vont annoncer que non seulement c'était bien un avion espion, mais en plus ils ont le pilote et l'avion, ils ont les preuves de la mission et de son objectif. Et Khrouchtchev, dans sa déclaration, va essayer d'exonérer le président américain pour garder ses options ouvertes. Il va exonérer le président américain, il va blâmer l'appareil militaire américain et la CIA, en disant que ça n'est certainement pas le président américain qui est quelqu'un de bonne foi, mais que sans doute on a ordonné ce vol à quelques jours d'une réunion si importante, peut-être laisse-t-il entendre pour faire capoter les négociations. Donc c'est à la fois un moyen évidemment de mettre la pression sur Eisenhower, c'est aussi un moyen de garder ses options ouvertes dans le cadre de la négociation avec les États-Unis. En réponse, les États-Unis vont, après un long moment d'hésitation au cours de la journée, donner un second communiqué, dans lequel, cette fois, on change complètement d'attitude, c'est-à-dire on assume. Alors on assume prudemment, hein, on rappelle que c'est un avion non armé, le U-2, hein, donc il ne s'agissait pas de bombarder l'Union soviétique, hein, mais on confirme que c'est bien un avion espion. Deux jours encore passent, et Khrouchtchev annonce le 9 mai qu'il maintient sa présence à Paris, qu'il maintient son voyage à Paris, et que la conférence va avoir lieu, doit avoir lieu, à condition que les Américains s'excusent. Et à la conférence, les Américains vont refuser de s'excuser. Et donc Khrouchtchev, qui a préparé dans son avion un discours, puisqu'il s'attend à l'absence d'excuses américaines, il va livrer un discours d'abord en privé aux chefs d'État réunis à Paris, donc à De Gaulle, Macmillan et Eisenhower. Il va livrer un discours extrêmement agressif en disant qu'il n'est pas question que la conférence se poursuive, que les Soviétiques, en l'absence d'excuses, ne vont pas rester. Et on finit par aboutir évidemment à ce qui était pratiquement inévitable à partir du moment où la crise se déclenche le 5 mai, c'est-à-dire l'échec de la conférence. Alors cette conférence n'est sans doute pas le rendez-vous manqué de la guerre froide qu'on n'a pas voulu voir, mais il est certain qu'à court terme en tout cas, c'est le signe d'une remontée des tensions entre les deux pays qui se poursuivront dans les mois qui suivent.
Voilà donc pour ce nouvel épisode de la Fabrique de la Guerre Froide que vous pouvez télécharger séparément de l'ensemble de l'émission du jour, une Fabrique de la Guerre Froide préparée par Anaïs Quien et Françoise Camin. Bonjour Victor Massé de Lépiné.
Bonjour Emmanuel.
On va vous entendre pendant toute cette émission puisque vous avez visité l'exposition « L'histoire commence en Mésopotamie », l'exposition du Louvre-Lens en compagnie de sa commissaire, donc Ariane Thomas. Mais nous voulions commencer cette émission par une grande voix de ceux qui étaient spécialistes de la Mésopotamie et qui ont marqué cet ensemble d'histoire mésopotamienne. Il s'appelait André Parot et on l'entendait
sur la RTF à l'époque. André Parot, qui était un grand archéologue et aussi théologien protestant, qui a été directeur du musée du Louvre et qui a fait des fouilles dans les années 20 et 30 en Syrie et en Irak en particulier.
Une causerie de 1950 sur les ondes de la radiodiffusion française en ouverture de votre balade au Louvre-Lens.
Au commencement de cette série d'émissions consacrées à la Mésopotamie, comment ne pas rendre à l'archéologie l'hommage qui lui est dû? C'est elle en effet qui va permettre de révéler à ce qu'on est convenu d'appeler le grand public un des foyers les plus éblouissants de la civilisation de l'Antiquité. Sans la pioche des fouilleurs, les vallées du Tigre et de l'Euphrate continueraient à garder leurs secrets, puisque dans cette région où toutes les constructions du passé étaient en briques crues, c'est-à-dire séchées au soleil, les villes anciennes s'étaient depuis longtemps ensevelies, elles-mêmes, sous un manteau de décombres. Nivelées par le vent, rongées par l'érosion, elles avaient pris l'apparence d'une colline naturelle, ce que là-bas on appelle un tell. Ayant généralement aussi perdu leurs noms antiques, ces cités mortes en avaient reçu d'autres. Qui aurait reconnu Ninive sous l'appellation de Kouyunjik? Assur sous celle de Kalaat-Shergat, Ur, la ville d'Abraham, sous celle de Mugeir, Lagash sous celle de Tello. Tout cela était vrai il y a quelques cent ans, mais n'est plus aujourd'hui. L'archéologie a rempli ce blanc de l'histoire. Elle a rendu des noms, des hommes et des choses.
Ariane Thomas, bonjour.
Nous sommes ici au Louvre-Lens dans cette exposition qui s'appelle « L'histoire commence en Mésopotamie » avec vous qui êtes la commissaire, vous êtes conservatrice au Louvre. Alors, cette exposition s'ouvre avec une grande carte qui situe géographiquement la Mésopotamie. En gros, l'Irak actuel, le Koweït.
Une partie de la Syrie, donc un territoire qui est, on va dire, le cœur de ce pays dit entre les fleuves en grec, mais qui, à certaines périodes de sa longue histoire, a pu dominer une large partie du Proche-Orient et dépasser de beaucoup ce pays entre le Tigre et l'Euphrate. L'exposition s'intéresse à la période allant de l'apparition de l'écriture cunéiforme, la première connue du monde à ce jour, qui apparaît à la fin du 4e millénaire et jusqu'à sa disparition à la fin du 1er millénaire avant notre ère.
Vous venez d'évoquer l'écriture, alors on va commencer par là, Ariane Thomas, la naissance de l'écriture et ce titre de l'exposition, l'histoire commence en Mésopotamie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre? Ça fait référence à Samuel Noah Kramer, l'histoire commence à Sumer. Mais c'est un titre qui peut prêter à polémique peut-être dans le milieu.
Je ne pense pas, dans la mesure où la convention entre préhistoire et histoire est à la fois connue du grand public et admise dans les cercles scientifiques, l'apparition de l'écriture fait qu'on entre conventionnellement dans des périodes dites historiques. Auparavant, c'est la préhistoire. Pour les régions qui n'auraient pas l'écriture, alors que d'autres l'ont, on parle de proto-histoire. Évidemment, tout ça est conventionnel et ne veut en aucun cas dire que tout commence en Mésopotamie, qu'il ne se passerait rien avant. C'est pas du tout le sujet. C'est effectivement aussi un clin d'œil à Samuel Noah Kramer qui a écrit « L'histoire commence à Sumer ». L'exposition entend à son tour, mais à une autre époque et avec de nouvelles données, rappeler les jalons importants qu'on retrouve en Mésopotamie en l'état de nos connaissances, je redis, puisque c'est l'avantage d'une exposition archéologique, que tout pourrait être remis en question par de nouvelles découvertes que l'on souhaite, évidemment. Mais bon, en l'état de nos connaissances, il y a effectivement des villes qui apparaissent au 4e millénaire en Mésopotamie, des villes dans lesquelles on voit apparaître l'écriture cunéiforme qui fait entrer dans l'histoire et une écriture qui nous donne aussi les noms de rois et les premiers états ou les premiers empires connus. Donc ce titre, il fait aussi référence au fait que la Mésopotamie, d'un point de vue officiel, a recopié pendant 3000 ans des textes, a reconstruit des temples, a voulu aussi écrire son histoire à la manière d'historien, c'est-à-dire aussi en la triant et en la filtrant.
L'écriture cunéiforme, nous en voyons un exemple avec cette stèle qui est présentée, qui s'appelle le caillou Michaud,
oui.
Et qui est, je crois, la première apparition, enfin la première connaissance qu'on a eue en Occident de l'écriture cunéiforme.
Oui.
J'en profite pour vous poser une question. Est-ce que c'est cette écriture cunéiforme qui finalement donne l'unité de ce qu'on appelle la Mésopotamie, puisqu'en Mésopotamie, il y a eu plusieurs civilisations, finalement, plusieurs dynasties, plusieurs populations,
plusieurs langues. Et
oui.
Plusieurs écritures aussi, puisqu'évidemment l'écriture cunéiforme va aussi apparaître dans des systèmes alphabétiques, etc. Bon, l'écriture cunéiforme participe d'une certaine unité, en effet. Il n'y a pas que ça. Évidemment, à travers l'écriture, c'est aussi un des vecteurs par lesquels la Mésopotamie, du moins dans la sphère officielle des temples, des palais, a aussi perpétué cette image d'une relative permanence qui est tout de même à contrebalancer par la réalité de la société qui, elle, évolue. Et on en a parlé avec des mouvements de population tout à fait conséquents dans une terre qui est un carrefour de l'Orient et qui est aussi une terre de métissage.
Alors, vous avez voulu commencer cette exposition en nous montrant un peu l'imaginaire autour de la Syrie, autour de Babylone peut-être en particulier.
Mm-hmm.
On se trouve ici devant deux œuvres que j'aimerais présenter. La mort de Sardanapale, c'est le tableau de Delacroix, bien connu ici, c'est une copie. Delacroix s'est inspiré d'un livre de Byron. Puis a donné
une pièce de Byron inspirée par les récits de Diodore de Sicile autour d'un roi, Sardanapale, un roi légendaire qui n'est pas attesté historiquement, qui apparaît donc comme un roi, disons, presque efféminé, fainéant, suicidaire, enfin, qui est une image de ce despote oriental un peu dépravé, et qui, de manière tout à fait paradoxale, serait en fait une déformation du nom d'un des plus grands rois assyriens, Ashurbanipal, qui au contraire a été dans l'histoire mésopotamienne un grand conquérant, un roi lettré, un administrateur, enfin, il n'avait sûrement pas que des qualités, mais en tout cas, il ne ressemble pas vraiment au portrait qu'en ont laissé les auteurs antiques par cette légende déformée de Sardanapale. On voit aussi juste à côté un projet de décor pour l'opéra par Cattell, mais il y en a eu d'autres dans la première moitié du 19e, pour mettre en scène la légendaire reine de Babylone, Sémiramis. On peut penser à Meyerbeer, à Rossini. Il y a eu plusieurs opéras en ce 19e.
Et à Voltaire avant eux.
Et à Voltaire avant eux, puisqu'évidemment, il s'inspire de son livret. Et puis évidemment, avant Voltaire, et bien tous les auteurs antiques qui ont développé autour de cette reine, peut-être plus positive, parce qu'on la crédite avoir fait de Babylone une merveille, Babylone étant une des rares villes hors du monde grec à être dotée d'une des merveilles du monde, mais c'est en même temps une reine qui a accédé au pouvoir de manière assez compliquée, contestable, etc. Donc je passe vite, mais ce qu'on a voulu faire dans ce début d'exposition, c'était rappeler le bagage culturel qu'ont eu les premiers inventeurs, c'est-à-dire les pionniers de l'archéologie mésopotamienne, ceux qui, au milieu du 19e siècle, se sont lancés, non pas dans la récolte d'objets comme le caillou Micho qu'on vient de voir, avec des petites collections, mais dans la fouille archéologique de sites à plus ou moins grande échelle. Et donc là, on voulait rappeler qu'au début du 19e, ces gens avaient lu la Bible. Mais on retrouve aussi des légendes, donc on vient de parler de Sardanapale, de Sémiramis, dans les auteurs grecs puis latins, et que c'est ce bagage-là avec lequel ils sont partis, curieux de trouver des vestiges réels de ces civilisations pour lesquelles il y avait un souvenir assez confus et très ambigu, mêlé à la fois d'admiration pour la démesure, donc la monumentalité, mais en même temps aussi en critiquant l'orgueil, la dépravation, etc.
On va avancer un petit peu. Et donc on arrive dans cette seconde partie de l'exposition qui est consacrée à l'économie mésopotamienne. Et la première pièce qu'on voit en arrivant, c'est une toute petite tablette qui fait 10 cm de hauteur à peu près, presque la taille d'un paquet de cigarettes, qui s'appelle la tablette d'Enki. Pourquoi est-ce qu'elle est importante ?
Eh bien, dans l'exposition, on a essayé d'une certaine manière de faire parler les tablettes par différents biais. J'invite le visiteur, il y a des biais plus classiques, on met un extrait à côté, mais on a aussi utilisé des tablettes modernes, des iPads. Donc précisément, cette tablette, eh bien, elle raconte comment Enki, dieu des eaux douces, de la sagesse, bienfaiteur de l'humanité, qui l'a contribué à créer, à qui il a apporté tous les apports qui font la civilisation, eh bien, a décidé aussi de l'ordre du monde, dans lequel la Mésopotamie est une terre qui va prospérer grâce à l'agriculture et à l'élevage, dans un environnement qui est maîtrisé, en particulier grâce à l'irrigation, avec un réseau de canaux particulièrement intense dans le sud du pays et qui le rend fertile, alors qu'aujourd'hui on en a une vision souvent très aride. Maintenant que le littoral s'est retiré, que les canaux n'ont pas nécessairement été entretenus. Donc agriculture, élevage prospère, artisanat aussi, dans certains cas d'ailleurs assez innovant, et en même temps des ressources dont la Mésopotamie, si on prend au sens large, sera dépourvue et qui obligeront ce pays à être très tôt tourné vers l'extérieur pour se fournir en pierre précieuse, en pierre plus dure de construction ou pour des sculptures, en bois de qualité et puis en métaux. Dépourvue de minerais, elle va donc se tourner vers le plateau iranien, vers le Golfe, enfin dans différentes directions, et donc développer des échanges extérieurs par voie terrestre, par voie fluviale, par voie maritime, qui vont aussi sans doute participer à la fois de son rayonnement et en même temps aussi du fait qu'elle-même est nourrie par un certain nombre d'influences. J'ai dit aussi que c'était un carrefour au milieu de l'Orient.
Alors dans cette partie sur l'économie mésopotamienne, on a des tablettes qui mentionnent justement cette agriculture, cet élevage, les troupeaux, les céréales. Ici, on a une carte du territoire.
Alors, ces tablettes d'argile, évidemment, elles sont de forme, de taille, de qualité variée, mais surtout, ce ne sont pas nécessairement que des textes inscrits. Et donc là, vous avez un exemple de carte, comme on en a d'autres. Alors, ici, on a même des cartes du monde, on a des cartes de régions, un peu plus loin dans l'exposition. Ici, c'est une sorte de cadastre, en quelque sorte, donc une carte d'une région agricole dans le sud du pays, avec son réseau de canaux et l'indication des terres qui sont plutôt marécageuses, des terres qui sont cultivées et par qui elles sont cultivées, des chemins, etc.
Alors dans tous les matériaux exposés, on passe entre autres devant le premier morceau de verre connu, identifié.
Alors là, je dois saluer les prêts de nos collègues du British Museum qui ont accepté, avec d'autres grands musées, de prêter aussi bien des pièces tout à fait majeures et spectaculaires. Vous parliez de bijoux, ils ont accepté de sortir une parure magnifique des tombes royales d'Ours qui n'étaient pas sorties depuis des décennies, mais aussi des pièces qui sont importantes sur le plan archéologique, comme deux très vieilles graines miraculées de la conservation ou ce tout petit lingot de verre qui n'a l'air de rien mais qui date de la fin du 3e millénaire.
Les graines dont vous parlez, ce sont des graines d'orge.
Des graines d'orge
avec lesquelles on fait la bière.
Exactement, l'agriculture mésopotamienne est avant tout céréalière et l'orge va servir alors à plein d'autres choses, mais notamment aussi à fabriquer de la bière dans diverses qualités selon qu'elle est destinée, puisque c'est de la boisson fondamentale, aux dieux, aux rois ou à des couches beaucoup plus modestes, puisque tous en boivent, mais pas nécessairement la même.
Et alors, témoin du commerce, on a aussi ici une série de pois qui sont des petites pierres taillées, polies,
ou en métal. Il y a tout un système de poids et mesures et qui va être uniformisé, disons, plus ou moins laborieusement au fil des siècles et des règnes. Vous avez aussi des pois qui sont simplement tout à fait très beaux, inscrits au nom de rois, qui ont une valeur historique par ailleurs et qui servaient donc à échanger tous ces matériaux venus de plus ou moins loin sous forme travaillée, mais aussi sous forme de lingots bruts, comme on le montre, avec de très beaux lingots de cornaline et de lapis-lazuli qui venaient d'aussi loin que l'Asie centrale ou l'Indus.
Donc vous nous montrez les lingots bruts, puis...
On voit à la fois les matières brutes retrouvées dans l'Antiquité et les matières travaillées avec un ensemble, je crois, assez beau, de colliers datés du 4e au 1er millénaire et donc rassemblant un nombre assez conséquent de pierres.
On va se diriger vers la partie suivante, consacrée aux religions.
La religion est omniprésente dans la société mésopotamienne. Tout est créé par les divinités. Et ces divinités forment un panthéon plus que polythéiste, donc innombrable, presque infini, mais en même temps organisé, très structuré à l'image de la société, avec des divinités majeures, et puis des divinités qui ont un peu moins de pouvoir, certaines qui sont leurs serviteurs, des êtres intermédiaires. Au sommet de ce panthéon, vous avez donc des divinités qui, pour certaines, vont rester en faveur pendant toute la durée, on va dire, de l'histoire mésopotamienne. Et on peut citer des dieux comme Ishtar, qui est une déesse de l'amour et de la guerre, connue également sous son nom sumérien d'Inanna, ou Shamash, le dieu du soleil. Enfin, j'en passe, on a parlé aussi du dieu Enki-Wea, le dieu des eaux douces, bienfaiteur de l'humanité qu'il a créé. Mais à côté, on a aussi des dieux qui apparaissent. Et c'est assez fascinant de voir que certains, leur personnalité va évoluer. Par exemple, d'une divinité bienveillante à une divinité malveillante. Et puis aussi des dieux suprêmes qui vont décroître en pouvoir et être éventuellement supplantés par d'autres au fil notamment de l'évolution politique de la Mésopotamie. Donc je prendrai l'exemple qu'on montre dans l'exposition, le dieu Marduk, dieu de Babylone, qui avec l'ascension du pouvoir de Babylone va en quelque sorte supplanter le dieu Enlil qui avait dominé le panthéon sumérien au 3e millénaire.
Et donc on a toute une série d'objets cultuels.
Oui, d'objets cultuels, parfois assez exceptionnels. Vous avez derrière vous un des très rares vases en argent. Alors, les textes nous parlent du mobilier précieux qui servait au culte dans les temples, mais malheureusement, eh bien, de nouveau, on parle de très très vieilles périodes, et les matériaux précieux étant souvent réutilisés, eh bien, la conservation et les réutilisations ont fait que très peu ont survécu. On est donc face à un miraculé, un vase intact, magnifique, prêté donc par le Louvre, en argent, fait d'une seule feuille d'argent, donc par ailleurs une prouesse technique, finement gravée, de l'aigle à tête de lion qui accompagne le dieu d'Ninguirsu, ce dieu dont l'inscription nous dit que c'est une offrande du roi pour qu'il puisse manger. Donc c'est vraiment pour les repas quotidiens que l'on devait servir à ces divinités. Et puis à côté de ça, eh bien, on a des poèmes qui sont à la gloire de ces divinités, qui pouvaient leur être chantés en musique, comme on le montre aussi. Et puis évidemment, eh bien, il y a les prières que l'on retrouve dans les tablettes, mais qui sont aussi matérialisées avec des sculptures, et dont une magnifique, qui fait l'affiche de l'exposition, qui est replacée avec un certain nombre d'autres de ces statues qui étaient déposées dans les temples, les mains jointes, et qui portent souvent, comme c'est le cas ici, une inscription à l'arrière sur l'épaule, qui donne le nom de celui qui prie, ici c'est Ebihil, et la dédicace à la divinité qui doit recevoir cette prière éternelle, ici la déesse Ishtar dont on a parlé.
Alors cette Ebihil qu'on voit en effet beaucoup depuis que cette exposition à Lens a commencé, sur les affiches, sur le catalogue, il a quelque chose de fascinant dans son regard, dans son bleu, dans son sourire un peu énigmatique.
Il sourit, il a les yeux incrustés de lapis lazuli, fixés vers la divinité, les mains jointes face à elle. Il a une extrême qualité technique, donc j'engage à ce qu'on vienne le voir, d'autant qu'il est, je crois, peut-être encore mieux présenté qu'il ne l'est d'habitude au Louvre. C'est aussi l'enjeu de cette exposition.
Et prier assis, c'est courant ?
Prier assis, c'est courant, comme vous le voyez. On peut être aussi debout, on peut aussi avoir d'autres gestes même que les mains jointes. Les mains jointes étant évidemment un geste qui nous parle toujours, puisque ça continue de se faire.
Et la salle suivante, dans laquelle nous nous trouvons à présent, Ariane Thomas, est consacrée aux villes, aux premières villes. Peut-être qu'il faut commencer par parler de l'argile qu'on a évoquée un petit peu tout à l'heure. L'argile, c'était le matériau de construction principal employé dans toute la civilisation mésopotamienne. L'argile et le bitume, ou asphalte, qui servait de ciment.
Les Mésopotamiens, toujours dans la version officielle, considèrent que la ville est le lieu par excellence de la civilisation. Sous ce prétexte, on revient à la fois sur l'apparition du phénomène urbain, mais on revient aussi sur, comme vous venez de le dire, les fondamentaux, à savoir pourquoi les voyageurs et les archéologues sont, en tout cas l'ont été, assez désespérés en arrivant sur ces territoires et en ne trouvant pas la monumentalité et l'aspect colossal qui était décrié, vanté de manière ambiguë dans la Bible ou par les auteurs antiques, grecs et latins. Or, c'est bien parce que vous venez de le dire, parce que c'est en argile. Et que l'argile, si ça permet de construire vite et de manière tout à fait grandiose, avec des décors, parce que c'est assez malléable, eh bien, en même temps, ça ne se conserve pas toujours si bien que ça. En particulier avec la brique crue, qui est quand même le matériau fondamental, donc séché au soleil. On peut citer notamment la tour de Babel, dont on dit très clairement qu'ils ont construit cette tour avec des briques d'argile et que, au lieu le mortier a été le bitume. Le bitume qui est donc une forme de pétrole qu'on trouve localement, qui a été exploité à la fois donc dans l'architecture, mais aussi comme imperméabilisant, comme colle, etc. Donc, ce qu'on a voulu retranscrire ici avec des remontages monumentaux qui ont été faits de manière inédite pour l'exposition, mais aussi des maquettes, mais aussi des films et des reconstructions virtuelles et des photos d'archives à l'échelle monumentale, c'était donner à voir ce qui trop souvent a disparu, à savoir ces architectures colossales et cette argile qui permet beaucoup, mais qui néanmoins nécessite un entretien et une restauration très régulière.
Alors là, justement, on est devant une photo de très grand agrandissement, de la découverte d'un
pilier monumental faisant partie d'un temple dans une cité qui s'appelle aujourd'hui Tello, mais qui est l'antique Girsu. et qui a, pour donner une idée aux auditeurs, le diamètre, grosso modo, des colonnes de la Madeleine. Alors, c'est très parisien de dire ça, mais bon, au moins, ça donne une idée. Et ça permet, je crois, de se rendre compte à la fois de la monumentalité, même s'il n'en reste que la base, mais aussi de la sophistication, puisque construire en argile, c'est certes pouvoir construire vite, mais pas néanmoins mal. Et on voit ici qu'on a affaire à 8 assises de briques différentes qui sont alternées, des modules extrêmement travaillés, le tout étant inscrit pour durer dans le temps, pour laisser des traces, notamment au moment des restaurations, et qui permettait, donc le tout jointoyé au bitume, de construire de manière monumentale une sorte de pilier fait de 4 colonnes assemblées les unes aux autres.
4 colonnes rondes assemblées dans un pilier carré.
Oui, et ça prenait place donc dans un temple, alors peut-être sous forme de portique, en tout cas d'après l'inscription, un lieu qui serait lié à la justice étant donc le droit mésopotamien ayant une certaine réputation, et ça permet aussi de rappeler que les temples en Mésopotamie, et en particulier les grands temples des grandes cités mésopotamiennes, sont d'énormes complexes qui ont bien sûr leur fonction religieuse proprement dite, avec des lieux de culte, mais aussi, et on a parlé des repas quotidiens, des cuisines, des magasins, des archives, des espaces administratifs, et enfin des espaces où, selon les fonctions ou les pouvoirs particuliers de telle ou telle divinité, peuvent avoir aussi d'autres missions, et par exemple un lieu de justice, des écoles, des bibliothèques, etc. Enfin, j'en passe, un certain nombre d'autres fonctions.
Si on arrive à aller en face, il y a un monde fou dans cette exposition. On arrive aussi aux portes, portes qui étaient en bois et en métal. On se trouve devant
une bande dessinée en métal, on pourrait dire.
30 morceaux qui reconstruisent
porte.
Une porte, c'était du métal qui était fixé sur du bois.
Fixé sur du bois qui a disparu. Alors effectivement, on a essayé dans la manière de présenter, avec des schémas, avec des dessins, d'expliquer nos collections pour ce qu'il en reste. Puisqu'en effet, l'archéologue fait face ici, par exemple, à une porte, mais dont on a perdu le seuil. Donc on a perdu le sol, on a perdu les murs, on a perdu la porte en bois. Donc on a perdu l'argile et le bois. Mais il reste l'élément qu'on appelle crapaudine et qui portait du coup le pivot même de la porte. On a retrouvé la contre-crapaudine en haut qui la tenait par la partie supérieure. Et on a aussi retrouvé ces plaques qui portent même des légendes et qui sont extrêmement belles parce qu'elles représentent les campagnes militaires d'un roi assyrien. C'est extrêmement figuré. Il y a des légendes par-ci par-là pour préciser de quoi il s'agit. Et le tout superposé, plaqué sur le bois que l'on a perdu de la porte, permettait d'avoir une porte monumentale, décorée et narrative en même temps. L'exposition a aussi permis de restaurer des œuvres qui ne pouvaient pas être présentées jusque-là, du moins pas telles quelles. Là, c'est l'exemple sur le métal, mais on a aussi un panneau monumental de briques qui n'avait jamais été présenté parce qu'il y avait un travail assez conséquent, à la fois dans le travail autour du puzzle que ça constituait, sans trop d'indices, mais aussi de restauration pour consolider ces briques extrêmement fragiles, et enfin de remontage avec, alors là ce sont tous les métiers du Louvre, des ateliers extraordinaires qui ont œuvré pour que le tout puisse être remonté dans quelque chose qui monte à plus de 5 mètres et qui vous donne une idée de nouveau de la monumentalité de l'architecture mésopotamienne qui a trop souvent disparu.
Une autre façon de montrer, de présenter les villes mésopotamiennes, ce sont les maquettes. On est ici devant une maquette très grande.
Et puis on a des reconstructions virtuelles, dont une qui a été faite exprès pour l'exposition.
Alors nous sommes devant
du palais de Khorsabad, le palais de Sargon II, au 8e siècle avant notre ère, donc le premier millénaire avant notre ère. Une ville qui a été construite en une décennie à peine, qui n'a pas eu une durée de vie extrêmement longue, parce que le fils de Sargon, Sennacherib, va décidé de transférer la capitale à la mort de son père à Ninive, la dernière des capitales assyriennes. Et donc une ville tout à fait gigantesque avec un palais assez extraordinaire dont le décor est assez célèbre puisqu'il est une des pièces maîtresses de la collection du musée du Louvre. Un passage monumental avec les taureaux à tête humaine, les taureaux ailés à tête humaine, et avec aussi la présentation d'un fragment de ces taureaux qui n'avait jamais été montré non plus, à côté donc du panneau de briques dont je viens de parler, qui vient aussi de Khorsabad, et de cette reconstruction virtuelle, donc faite exprès pour l'exposition, et qui permet aux visiteurs de se transposer, enfin de voyager dans l'Antiquité pour visiter, comme s'il était un invité, le palais, voir les reliefs remis en place, mais aussi le palais disparaître en accélérant exagérément ce qui s'est passé au cours de plusieurs siècles pour voir l'état actuel, puisque l'exposition rappelle aussi, en particulier pour ces sites qui étaient sous territoire soumis par Daesh, donc les pillages et les destructions dont les sites font malheureusement l'objet aujourd'hui.
Alors c'est une visite virtuelle, on a l'impression de se promener dans
le palais
de Khorsabad. J'ai l'impression de s'y promener tout seul au 8e siècle, avant Jésus-Christ.
Oui.
Il y avait beaucoup de monde dans ces temples et dans ces villes.
Oui, on a souhaité évoquer ce que pouvait être le palais d'un point de vue architectural. Donner des visiteurs à côté de vous pour vous donner une idée de l'échelle, mais pas davantage parce qu'on aurait versé dans l'imaginaire et dans le film de fiction.
Alors, pour sortir de cette salle, on passe sous cette porte monumentale avec les taureaux ailés à tête
entre
d'homme.
Entre les taureaux.
Qui sont dans la cour du Louvre. Alors cette porte, elle fait déjà 4 ou 5 mètres de haut.
Mm-hmm.
Et au-dessus de cette porte, on croit qu'il
pouvait
y avait...
venir des panneaux monumentaux, dont celui qu'on a donc reconstitué, qui est alors là un inédit total, puisque non seulement la reconstitution n'avait jamais été faite, mais les briques elles-mêmes, sauf quelques-unes, n'avaient jamais été présentées, et pour cause, puisque sans la reconstruction, elles ne sont pas spécialement parlantes. Or là, on se retrouve face à un panneau de plus de 5 mètres, avec aussi l'évocation de ce que ça pouvait donner en couleur et en brillance, puisque ce sont des briques émaillées qui vous montrent le roi Sargon de manière dédoublée, sous le disque ailé Ashur, le dieu suprême, l'équivalent de Marduk en Babylonie, une inscription à la gloire du souverain qui a fondé cette ville, un arbre symbole de prospérité, et le tout encadré d'un riche encadrement. On a 4 bordures décoratives avec une alternance et une symétrie assez belle, le tout donc très coloré.
Une alternance de fleurs en particulier,
oui,
de chèvres,
de part et d'autre de petites marguerites, des génies ailés, comme on les connaît si on a déjà vu des reliefs assyriens, qui font un signe de protection, et puis alternance de lotus, de palmettes, tout un ensemble qui est documenté donc par la chance, finalement, qu'en se lançant dans ce puzzle, on ait découvert qu'on en avait en quelque sorte assez un peu partout pour évoquer, reconstituer l'ensemble de ce motif. Et puis évidemment, à côté, des œuvres non pas inédites, mais des chefs-d'œuvre qui ont quitté le Louvre, comme d'autres ont quitté le British Museum ou d'autres musées comme Berlin. Le lion de Babylone, qui est aussi donc dans ce pays de l'argile, un décor monumental de la voie processionnelle, la principale des rues de Babylone, qui desservait les principaux temples et les palais,
qui
montre donc un lion rugissant. Les ziggourats, donc je rappelle, tours de Babylone, dont une tablette dans l'exposition donne les dimensions et qui sont évoquées aussi dans cette salle avec ces tours à étages, donc en maquette, en photo et aussi avec les représentations antiques de ces tours.
Alors on arrive dans une salle plus spécifiquement dédiée à l'écriture et on va pouvoir entendre quelque chose quand on s'installe dans cette petite alcôve. On entend un texte d'écriture cunéiforme lu par des assyriologues. Combien de personnes savent lire ces écritures aujourd'hui dans le monde ?
Pas si peu que ça. C'est pas une majorité mondiale, évidemment, mais tout de même. Là, j'ai simplement voulu répondre, sans répondre en même temps, à une question qui est très régulièrement posée, qui est tout à fait légitime, à savoir, mais comment ça se prononce ? Or, ce sont des langues antiques, donc notées dans l'écriture cunéiforme. Donc, j'ai demandé, et ça dure une minute, à des collègues qui ont différents accents, de réciter tour à tour cette même ligne d'un extrait de l'épopée de Gilgamesh, une histoire bien connue de la Mésopotamie antique, que l'on peut d'ailleurs, comme une chanson étrangère, face au banc, lire hein, en transcription. Et donc on peut écouter, je ne sais pas si on entend.
Gilgamesh, Anna Shashuma et Zakara, Anna Utana Pishtim Ruki. Anatana Kuma
Utana Pishti. Minato ka ulshana ki yatima ata. U ata ulshanata ki yatima ata.
Anatala
kumma ka libi ana epe
shtukunti. U
achina dat
ilu ki yatima ata.
Ata.
U ata ulshanata
ki tazis ma
ina pukulili.
Alors on voit que on entend plutôt que les écritures cunéiformes se lisent de façon différente. Il y a plusieurs écritures cunéiformes, plusieurs langues, le sumérien, l'acadien.
Mm-hmm.
Ici, dans cette partie, vous exposez un certain nombre de tablettes.
Mm-hmm.
Pour les béotiens comme nous, on voit des petites tablettes avec des petits clous. Alors expliquez-nous en quelques mots ce que racontent ces tablettes.
Bien, on a à la fois des documents de la vie quotidienne, des contrats de mariage, des contrats de vente, des lettres, des plaintes, des étiquettes, des badges, et aussi les tablettes des bibliothèques proprement dites, et qui sont à la fois des textes scolaires, vous avez des tablettes qui sont des exercices d'écriture, vous avez des textes qui sont des tables d'addition, des tables de multiplication, de division, des tablettes mathématiques. On a parlé des cartes géographiques, on a aussi des tablettes médicales qui sont des prescriptions, qui sont au contraire des rituels, et on retrouve notamment, parce qu'il n'y a quand même pas que des tablettes hein, dans cette salle, au contraire c'est mis en relation avec des objets, et par exemple on guérit aussi de manière magique avec des figures de démons qui vont chasser le mal, qui attaque le malade, par exemple le fameux Pazuzu qui est ici exposé, qui est une figure célèbre qu'on retrouve tant dans la BD de Tardi d'Adèle Blanc-Sec et le démon de la Tour Eiffel que dans le film L'exorciste. Alors, à côté de ces tablettes médicales, on a aussi, et c'est la renommée de la science mésopotamienne, des tablettes divinatoires. On a des encyclopédies, on a un calendrier, puisqu'on a hérité de la Mésopotamie, le décompte actuel de notre temps. Et puis, on a des tablettes littéraires, on a même des catalogues de bibliothèques, parmi lesquels un prêt exceptionnel du British Museum qui raconte le déluge avant le récit de l'Ancien Testament.
Ça a fait grand bruit quand on a découvert cette tablette et ce récit du déluge. On s'est rendu compte que l'Ancien Testament, la Genèse, n'avait pas été écrite absolument
inspirée
par Dieu.
Voilà, qui avait des précédents, parce que le récit en est effectivement très très proche. Alors ici, c'est le récit d'Atrahasis, donc le Noé mésopotamien, littéralement le super sage, qui survit au déluge avec l'aide de nouveau du dieu Enki, qui lui recommande, 7 jours avant le déluge, de construire un bateau étanche.
Alors Ariane Thomas vient de traverser un peu rapidement la dernière partie de l'exposition qui est consacrée aux rois et aux longues dynasties qui se sont succédées en Mésopotamie pendant les 3 millénaires qui occupent l'exposition. On termine avec la fin de cette civilisation mésopotamienne devant une tête d'Alexandre le Grand. C'est le fossoyeur de la Mésopotamie ?
Non. L'exposition relate, en effet, comme on l'a passé rapidement, ce qu'a pu signifier et comment est apparue et a évolué la fonction royale en Mésopotamie, à travers des chefs-d'œuvre, des œuvres modernes, des peintures, des rouleaux modernes qui décorent l'ensemble des murs et qui donnent l'impression de couleur qu'on a trop souvent perdue. Qui rappelle la fonction de roi de justice, etc., et toutes les fonctions majeures du roi mésopotamien, quel qu'ait été son pouvoir. On termine l'exposition avec la question de l'apparition de l'État, de la volonté impériale d'avoir un territoire qui est unifié à la fois par la conquête, mais aussi par l'administration, par l'uniformisation d'un certain nombre de pratiques qui passent aussi par les langues et l'écriture, etc. Donc c'est un prétexte aussi à rappeler les grands rois mésopotamiens dont beaucoup ont peut-être entendu parler. Alors par exemple, Hammurabi, par exemple, Ashurbanipal, Nabucodonosor II. Bon, toutes ces gloires de l'histoire mésopotamienne. Cette histoire, eh bien, on l'a dit, au premier millénaire, l'araméen a de plus en plus de succès. La situation change aussi, donc il y a énormément de paramètres. Hein. On résume souvent qu'il y a à la fois des facteurs climatiques, mais surtout économiques, politiques, culturels, sociaux, enfin, qui font que le monde change. Et que, progressivement, après les deux grandes gloires des empires assyriens et babyloniens, la conquête perse, qui va pourtant voir la Mésopotamie continuer de prospérer, marque d'une part le début de la domination étrangère sur ce territoire.
6e siècle, Cyrus.
À la fin du 6e siècle, la conquête perse. Suivie à la fin du 4e siècle de la conquête macédonienne par Alexandre le Grand. Et de l'avènement après la mort d'Alexandre le Grand à Babylone, ses successeurs qui vont établir le pouvoir en Mésopotamie. Alors on parle souvent d'hellénisation, même si c'est progressif. Donc pour tous les facteurs que je viens de citer, on voit le cunéiforme de moins en moins utilisé jusqu'à la rédaction de la dernière tablette autour de notre ère. La Mésopotamie, qui prend son nom du nom grec, hein, donc ce territoire progressivement, on pourrait dire marginalisé sur le plan politique économique, mais encore que ce soit relatif. Et puis, surtout, on pourrait dire qu'on a un effondrement progressif de ce qui avait fait la permanence de la Mésopotamie au-delà de la réalité au quotidien de la société, à savoir le fait de perpétuer les traditions, qu'on reconstruise les temples, qu'on recopie les tablettes. Donc tout ça va progressivement disparaître. Alors c'est effectivement très progressif, et comme c'est toujours difficile d'expliquer la disparition d'une civilisation qui en plus pour la Mésopotamie va se doubler d'un oubli progressif qui passe d'abord par la confusion et qui se conjugue ensuite avec un oubli réel de pans tout à fait importants de son histoire. Il y a une jolie formule qu'on a mis dans l'exposition, alors qui n'est pas réduite à ça, donc j'invite à ce qu'on vienne la lire en entier, par Georges Roux, disons qu'en fait elle est peut-être aussi morte d'une certaine manière de vieillesse. Et c'est vrai qu'on voit disparaître cette ou ces civilisations mésopotamiennes telles qu'elles avaient été, disons qu'elles avaient survécu au fil des assimilations, des évolutions et ruptures qu'elle avait connues au cours de 3000 ans et même un peu avant si on remonte aux époques préhistoriques, et qui disparaît, qui tombe dans l'oubli, alors pas tout à fait total, mais qui va ensuite passer plutôt dans le registre de la déformation, sinon même du fantasme et du souvenir confus et très très partiel. Ce que l'on relate à côté de la tête d'Alexandre avec ce qu'on a appelé un épilogue, avec une collecte un peu exceptionnelle de photographies d'institutions publiques comme le Louvre, le Collège de France, le musée Albert Kahn, mais aussi de fonds privés, de personnes qui nous ont donné ou prêté leurs images et qui permettent d'offrir aux visiteurs un voyage du nord au sud du pays, de 1850 pour les plus anciennes photos jusqu'à nos jours, à travers les sites qui pour certains sont en danger ou ont été en grande partie détruits, et ce très récemment, des villes modernes, des paysages de ce territoire qui a donc une réalité archéologique et qui en même temps, eh bien jusqu'à nos jours, mais dès la fin de l'Antiquité, va être tour à tour rejeté. On peut penser aux destructions, réutilisées, que ce soit donc pour des pillages ou simplement des assimilations politiques, et dans d'autres cas, simplement vaguement confondues et fantasmées avec des légendes qui vont se constituer autour de ce souvenir.
Voilà donc pour cette balade que vous avez réalisée, Victor Massé-Lépiné, avec Anne Flory, une prise de son d'Arthur Gerbeau au Louvre-Lens, en compagnie d'Ariane Thomas, commissaire donc de l'exposition L'Histoire commence en Mésopotamie, une exposition qui dure jusqu'au 23 janvier prochain. C'était le prétexte de notre série sur la Mésopotamie. Vous allez continuer demain avec un documentaire que vous avez réalisé avec Anne Flory.
Un documentaire sur le voyage d'Hérodote à Babylone. On aime bien les anniversaires à la fabrique. Et il se trouve qu'Hérodote est né peut-être en 484 avant Jésus-Christ, 484 plus 2016, pile 2500 ans. Je me suis dit que c'était une façon de rendre hommage.
Vous êtes bien le seul à avoir imaginé que c'était les 2500 ans d'Hérodote, mais c'est bien.
Il faut surveiller tout ça. Le père de l'histoire nous emmène donc à Babylone, cette cité mythique. C'est au début de ses enquêtes. Et on suivra un peu le fil du voyage d'Hérodote avec des commentateurs.
Les histoires, les historiens d'Hérodote, ce sont des enquêtes sur les choses humaines, hein, comme il le dit dans la première phrase de son œuvre. Et le titre « Enquête » correspond mieux au contenu. Hein. Évidemment, quand on parle d'enquête, il faut regarder ça avec un petit peu de précaution, parce que dans quelle mesure Hérodote a-t-il vraiment enquêté? Dans quelle mesure a-t-il utilisé les récits des autres? Il le dit lui-même. Il parle de ce qu'il a vu, il parle de ce qu'il a entendu, de ce qui lui semble vraisemblable, de ce qui lui semble invraisemblable, etc. Probesomai esto proso tulogu, homoios micrac cae megalas te anthropon effection.
Donc il connaît bien, voire très bien, l'ensemble du monde méditerranéen. Il a voyagé en Égypte, où il est resté plusieurs mois. En particulier, il était présent au moment de la crue du Nil, entre juillet et septembre-octobre. Mais le monde qu'il connaît encore mieux, c'est très certainement le monde égéen. C'est-à-dire qu'Hérodote a vécu et a connu, a travaillé, a pensé dans ce que l'on appelle le monde des cités grecques.
Epimnesomai amphoterum homoios.
Hérodote est né quand même sous domination perse. Je pense qu'il est fasciné plus qu'autre chose. Et puis aussi qu'il veut montrer que ces barbares, qui sont barbares, ont quand même des côtés positifs. Attention, il reconnaît lui-même que ce sont des empires qui ont fait des choses extraordinaires, des constructions dont on se souvient encore.
Babylone était en deux parties, car elle est divisée en son milieu par un fleuve, nommé l'Euphrate. Il vient du pays des Arméniens. C'est un grand fleuve, profond, au cours rapide. Il débouche dans la mer Érythrée. De chaque côté, les bras du mur d'enceinte sont poussés jusqu'au fleuve. La ville même est remplie de maisons à 3 et à 4 étages. Les rues qui la coupent sont droites, en particulier les rues transversales qui se dirigent vers le fleuve.
Le babylonien est la langue diplomatique pendant très 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 longtemps. À partir de la fin du premier millénaire, c'est plutôt l'araméen qui le supplante. Mais vous avez des gens qui parlent un petit peu toutes les langues.
Mais dès le 5e siècle, Hérodote, arrivant en Babylone, peut trouver des interlocuteurs hellénophones.
A priori, s'il n'en trouve pas, de toute façon, il trouvera bien des traducteurs.
Voilà pour l'annonce de ce documentaire Demain que vous avez donc conçu et réalisé avec Anne Fleury, un documentaire sur Hérodote à Babylone. Nous poursuivrons mercredi avec une autre émission.
Oui, la naissance de l'assyriologie au milieu du 19e siècle.
Et puis jeudi, nous ferons une comparaison entre les empires mésopotamiens et l'empire en Égypte. Est-ce qu'il y avait des rapports, des relations? On parlera donc mondialisation, proto-mondialisation à cette époque-là. En l'occurrence, merci Victor Massé de l'Épinay.
France Culture présente le spectacle Wade in the Water de la compagnie 1420. Clément de Bailleul et Raphaël Navarro, pionniers du mouvement artistique de la magie nouvelle, mettent en scène le parcours d'un homme et de sa famille face à une tragédie promise. Théâtre danse, jeu corporel et temporel, un spectacle porté par Wade in the Water, célèbre chant de révolte des esclaves noirs américains, et la musique brûlante d'Ibrahim Malouf. Wade in the Water, du 13 au 24 décembre au 104 Paris, avec le Théâtre National de Chaillot. Un partenariat France Culture.
Il est quasiment 10h sur France Culture. Cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. David Federman était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.